إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, on continue ce soir l'étude du livre Les trois fondements de l'imam de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala. On a vu dans les précédentes assises les quatre questions liées à la sourate Al-Asr. Puis on a vu par la suite les trois points qu'il incombe à tout musulman et à toute musulmane d'apprendre et de mettre en pratique, qui sont l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'alliance et le désaveu en fonction de cela. On va voir ce soir, incha'Allah ta'ala, la troisième partie de l'introduction de ce livre, qui porte sur l'importance du tawhid, l'importance de l'unicité et la gravité du shirk, la gravité du polythéisme. Le shaykh il dit, rahimahullah ta'ala, i'lam, sache. Et on a déjà parlé de ce mot, on a expliqué son sens et l'objectif de sa mention ici. Il a donc dit, i'lam, arshadakallahu li ta'ati, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Et ceci est une invocation de la part du Shaykh rahimahullah ta'ala. Pour toute personne qui lit ce livre, en cherchant à le comprendre et à le mettre en pratique, il demande donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'oriente. Al-Irshad, que l'on a traduit ici par l'orientation, désigne la guider vers la conformité et la réussite dans l'acquisition de la science profitable et l'accomplissement d'œuvres pieuses. Ceci est l'orientation. Ceci est l'irshad. Il dit donc, rahimahullah, arshadakallahu li ta'ati, qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Et ceci, comme vous le voyez, c'est une invocation immense. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'oriente vers quoi? Vers son obéissance. Et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elle consiste à ce que tu te soumettes aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu t'écartes de ses interdits. Ceci est ce qui est visé par l'obéissance. Que tu obéisses à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses ordres, c'est-à-dire que tu les mettes en pratique, et que tu lui obéisses également dans ses interdits, c'est-à-dire que tu les évites et que tu t'en écartes. Ainsi, tu te seras soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois accomplir cela en recherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et en craignant son châtiment. Ainsi, quiconque obtient la réussite dans cela et obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est orienté vers cela, qu'il est orienté vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne fait aucun doute qu'il sera parmi les bienheureux ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Il a donc dit, rahimahullah, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Et qu'est-ce que tu dois savoir ici? Il dit, rahimahullah, anna al-hanifiyyata millata Ibrahim, que la hanifiyya est la religion d'Ibrahim. Sache donc qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la hanifiyya est la milla, la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Al-hanifiyya, c'est la religion qui consiste à s'écarter du shirk, à s'écarter du polythéisme, pour se diriger vers le tawhid, l'unicité. Et Ibrahim, alayhi salatu wa salam, il était hanif et il était muslim. Il était hanif et il était muslim. Hanif, c'est-à-dire qu'il s'écartait et se détournait du shirk pour se diriger et s'orienter vers le tawhid et vers le culte voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans son noble livre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 120 de la sourate An-Nahl, « Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku min al-mushrikin. » Ibrahim était un guide parfait et il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des polythéistes. Allah subhanahu wa ta'ala a donc décrit Ibrahim comme étant hanif. Et la hanifiya est la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et elle consiste, comme on l'a dit, à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une religion qui n'est vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et à nul autre que lui. Elle ne comporte aucune forme de polythéisme. Et pourquoi le cheikh ici, il nous parle de la religion d'Ibrahim alayhi salam? C'est une question que tout lecteur ou tout auditeur pourrait se poser. Pourquoi le cheikh rahimahullah nous parle de la religion d'Ibrahim alayhi salam? La réponse est qu'il nous parle de cela car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre cette religion et il a ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de suivre la religion d'Ibrahim alayhi salam. Il a dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 123 de surat An-Nahl, thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim qui était hanif, c'est-à-dire voué exclusivement à Allah, et il n'était point du nombre des polythéistes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a également ordonné à nous de suivre cette religion, la religion d'Ibrahim alayhi salatu wa salam. Il a dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 78 de la sourate Al-Hajj, وَجَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملت أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. C'est lui, c'est-à-dire Allah, qui vous a élus et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. C'est celle de votre père Ibrahim qui vous a déjà nommé muslimin, c'est-à-dire qui vous a déjà nommé musulman. Et cette religion, al-Hanifiya, c'est en réalité la religion de tous les messagers et de tous les prophètes, alayhim salatu wassalam. Cependant, elle a été attribuée et affiliée à Ibrahim alayhi salam, étant donné qu'Ibrahim alayhi salam est le meilleur des prophètes après notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Ibrahim alayhi salam a rencontré ce qu'il a rencontré comme épreuve et comme difficulté sur le chemin de l'appel à Allah et de l'appel au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a patienté sur cela. Il a patienté sur ce sentier de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, Ibrahim alayhi salam est le père des prophètes, car tous les prophètes qui sont venus après lui font tous partie de sa descendance alayhim salatu wassalam. Et c'est pour cela qu'elle lui a été attribuée. Al-Hanifiya, c'est donc la religion de l'ensemble des prophètes et de l'ensemble des messagers. Et c'est l'appel au tawhid et l'interdiction du shirk, l'interdiction du polythéisme. Les prophètes, alayhim salatu wassalam, qui sont venus après Ibrahim, ont tous suivi cette religion qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette religion, comme on a dit, que notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été ordonné de suivre. Il est donc obligatoire pour nous de connaître cette religion. Quelle est cette religion que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été commandé de suivre? Car il est obligatoire pour le musulman de connaître ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a commandé afin de se soumettre. Comment pourrais-tu te soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a ordonné de suivre cette religion si tu ne sais pas qu'est-ce que cette religion? Il ne suffit pas de s'y affilier sans connaître cette religion. Il ne suffit pas pour une personne de dire « je suis musulman »
alors qu'il ne connaît rien de l'islam. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est l'islam. Quel est le sens de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il ne connaît pas ce qui annule l'islam. Il ne connaît pas les législations de l'islam et les règles de l'islam. Il n'est donc pas suffisant pour l'homme de s'affilier à la religion d'Ibrahim alayhi salam, alors qu'il ne connaît pas cette religion. Et si tu l'interroges à ce sujet, il dira « Je ne sais pas quelle est cette religion. » Ceci n'est pas permis. Il est donc obligatoire pour toi que tu connaisses parfaitement qu'est-ce que cette religion et en quoi consiste cette religion afin de cheminer sur cette voie avec clairvoyance en te basant sur des preuves évidentes. Donc le Cheikh rahimahullah, ici va nous dire et nous exposer qu'est-ce que la religion d'Ibrahim alayhi salam. Il a dit « I'alam, arshadak Allah li ta'ati » أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la Hanifiya est la religion d'Ibrahim et elle consiste à ce que tu adores Allah en lui vouant un culte exclusif. Ceci est donc la religion d'Ibrahim alayhi salam. Que tu adores Allah en lui vouant un culte exclusif. Tu dois réunir entre ces deux choses. Al-ibada, l'adoration, et al-ikhlas, la sincérité, le culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui adore Allah, mais qui ne lui voue pas un culte exclusif, son adoration, elle ne vaut rien, elle n'est pas valide. Celui qui adore Allah, qui jeûne, qui fait le pèlerinage, qui prie, qui fait la umrah, qui donne des aumônes, qui verse la zakat, et qui fait beaucoup d'obéissance, mais qui n'est pas sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne voue pas un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il fait cela par ostentation, ou bien il joint à son œuvre une forme de polythéisme, comme le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le fait de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci, il ne voue pas un culte exclusif à Allah, c'est un polythéiste, et il n'est pas sur la religion d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Beaucoup de ceux qui s'affilient à l'islam aujourd'hui sont tombés dans le polythéisme majeur, comme le fait d'invoquer autre qu'Allah, comme le fait d'adorer les tombes et les mausolées, comme le fait d'égorger pour les morts, comme le fait de tourner autour des tombes cherchant à se rapprocher de ses habitants ou recherchant la bénédiction auprès de celle-ci ou encore en implorant le secours des morts ou toute autre forme de polythéisme. Et cela disent nous sommes musulmans. Cela en réalité, ils ne connaissent pas la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et ils ne connaissent pas la religion de leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wassalam. Ils ne la connaissent pas. Et s'ils l'ont connue, alors ils s'y sont opposés avec science. Et ceci est encore plus grave. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La religion d'Ibrahim alayhi salam, elle n'accepte donc pas le polythéisme, quelle que soit sa forme. Et celui qui joint à son œuvre une forme de polythéisme, alors il n'est pas sur la religion d'Ibrahim, alayhi salam, même s'il s'y affilie et même s'il prétend qu'il est musulman. Le cheikh, il dit ensuite, rahimahullah, وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ. Et c'est cela qu'Allah a ordonné à l'ensemble des gens. C'est-à-dire que tu adores Allah en lui vouant un culte exclusif. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'ensemble des gens de l'adorer et de lui vouer un culte exclusif. Il a ordonné cela à l'ensemble des gens, aux Arabes et aux non-Arabes, aux Blancs et aux Noirs, aux pauvres et aux riches, tous les gens, depuis l'époque de Adam alayhi salatu wassalam, jusqu'au dernier des hommes de ce bas monde, tous, Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne quoi ? De l'adorer en lui vouant un culte exclusif. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 21 de surat Al-Baqara, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, c'est-à-dire l'ensemble des gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc l'auteur il dit rahimahullah, وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا. C'est donc cela qu'il a ordonné à l'ensemble des gens. Il les a créés pour cela. Il les a créés pour quoi ? Pour l'adorer seul, en ne lui donnant aucun associé, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tu as été créé. Et c'est la cause et le motif de ta présence sur terre. Il a dit ensuite, wad dalil, qawluhu ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Verset 56 de Sourate Adh-Dhariyat. Les djinns, ils font partie du monde de l'imperceptible. Nous ne les voyons pas et ils sont chargés d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur est interdit de faire du polythéisme et de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur est également interdit de commettre des péchés au même titre que les enfants d'Adam alayhi salam. Cependant, ils diffèrent des enfants d'Adam en termes de création. Mais quant aux ordres et aux interdits, ils sont semblables aux enfants d'Adam alayhi salam. Ils ont reçu les mêmes ordres et ils ont reçu les mêmes interdits. Même si nous ne les voyons pas, les djinns sont présents et sont soumis à la même législation que nous et ils sont appelés à l'islam. Et al-ins, ce sont donc les enfants d'Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a donc clarifié dans ce verset la raison, la cause et la sagesse de la création des djinns et des hommes. Et qu'il ne les a créés que pour une chose, qui est le fait de l'adorer. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne t'a pas créé afin que tu lui profites ou pour se préserver d'une certaine nuisance. Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe de l'ensemble de l'univers. Il ne t'a pas créé parce qu'il avait besoin de toi. Il ne t'a pas créé parce qu'il a besoin que tu l'adores. Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin de sa création. Mais ce sont les djinns et les hommes qui ont besoin de lui subhanahu wa ta'ala. C'est eux qui sont commandés et enjoints d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que lui n'a pas besoin de cette adoration. Mais c'est nous qui avons besoin de cela. Car lorsque l'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala honore ceux qu'il adore. Comment ? En les faisant entrer au paradis dans l'au-delà. Donc, l'intérêt et le bénéfice de cette adoration, elle revient à qui ? Elle revient à ta propre personne. Et la nuisance du péché, la nuisance de la désobéissance, elle retombe sur toi également. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne lui nuit pas que tu lui obéisses ou que tu lui désobéisses. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 8 de la sourate Ibrahim, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Si vous mécroyez, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, alors sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Ensuite le cheikh rahimahullah ta'ala, il a expliqué ce verset en disant wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Il a dit le sens de pour qu'il m'adore. Dans le verset, selon la traduction des sens rapprochés, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le cheikh rahimahullah ta'ala ici il te dit que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient, que pour qu'ils me vouent un culte exclusif. Car l'adoration sans le tawhid, ce n'est pas une adoration. Et ceci est une réfutation, une réponse à ceux qui expliquent le tawhid en disant que c'est le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et la mort et celui qui administre tout. Ceci n'est pas le tawhid qui est demandé. Le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, ce n'est pas pour cela que tu as été créé, mais tu n'as été créé que pourquoi ? Que pour lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. Et ceci est le tawhid al-ibada ou tawhid al-uluhiyya. L'unicité dans l'adoration, l'unicité dans la divinisation. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, il dit وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَ. Et la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée est le tawhid, l'unicité, qui consiste à vouer l'adoration exclusivement à Allah. Et ceci est très important. Le tawhid, c'est la chose la plus immense et la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Tous les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, ils viennent tous après le tawhid. Et la chose la plus importante est le tawhid. C'est pour cela qu'il a dit « A'adhamu ma amara Allahu bihi » at-tawhid. La chose la plus importante qu'Allah a ordonnée, c'est le tawhid. Car Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par cela dans de nombreux versets. À l'exemple du verset 23 dans Surat al-Isra, il a dit subhanahu wa ta'ala وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez nul autre que lui. Il a donc commencé par ordonner le tawhid. Et ceci nous montre que c'est la chose la plus importante qu'il a ordonnée, subhanahu wa ta'ala. De même que le tawhid, c'est l'appel de tous les messagers, alayhimu salatu wa salam, comme on l'a mentionné précédemment. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a dit dans son noble livre, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé un messager dans chaque communauté pour leur dire « Adorez Allah », c'est-à-dire vouez lui un culte exclusif dans l'adoration et écartez-vous du tagout. Ceci est donc la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée. Et si le tawhid est la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée, il est donc obligatoire pour toi d'apprendre le tawhid, d'apprendre la croyance authentique avant toute chose, car la croyance, c'est la base de ta religion. Il est obligatoire de commencer par la croyance, dans l'apprentissage et également dans l'enseignement. Il est obligatoire également d'étudier constamment et d'enseigner constamment la croyance et notamment le tawhid, car c'est la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée. Et il ne convient pas de commencer le prêche ou alors de commencer ses études par autre chose que l'étude de la croyance. Il y a des prêcheurs qui méprisent cette science et qui méprisent le fait d'enseigner le tawhid et d'enseigner la croyance. Et les gens ont été éprouvés par ces prêcheurs qui sont en réalité des prêcheurs de l'égarement. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver les musulmans de leur mal. Il faut que tu saches que la défaillance ou le manquement présent dans ta croyance et dans tes connaissances en termes de tawhid et de croyance, c'est une défaillance et un manquement dans ta religion. Il est donc obligatoire que tu accordes à cette science, la science du tawhid, la plus grande attention. Tu dois savoir qu'est-ce que le tawhid ? Car il y a des personnes qui disent que le tawhid, comme on l'a dit, c'est le fait de reconnaître qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort. Ceci n'est pas suffisant. Ceci n'est pas l'appel des messagers, alayhimu salatu wa salam. Le tawhid, il est comme l'a défini le shaykh ici, rahimahullah. Huwa ifradullahi bil'ibada. C'est le fait que tu voues ton adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est le tawhid, tawhid al-ibada. Quant au tawhid al-rububiyya, quant à l'unicité dans la seigneurie, le fait de reconnaître qu'Allah est le créateur, qu'il est le pourvoyeur, qu'il est celui qui donne la vie et qui donne la mort, qu'il est celui qui administre tout dans cet univers, alors ceci est présent dans la saine nature. Ceci est inné. Toute personne parmi les enfants d'Adam qui est douée de raison reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et il n'y a personne sur terre parmi les gens doués de raison qui pense qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Personne ne pense qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer un être humain qui parle, qui marche, qui mange et qui boit. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de cela. Et personne ne renie cette chose. Et la chose sur laquelle les gens sont en opposition avec les gens de l'islam, avec les monothéistes, c'est ce tawhid, l'unicité dans l'adoration. Le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à ceci qu'ont appelé l'ensemble des messagers alayhimu salatu wassalam. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, il a dit « وَأَعْظَمُ مَنَهَ اللَّهُ عَنْهُ الشِّرْكِ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَاهُ » Et la chose la plus grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite, c'est le polythéisme, qui consiste à invoquer autre qu'Allah avec Allah. Et ceci est un bénéfice immense. Car il y a des gens qui pensent que les plus graves des péchés et les choses les plus graves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites sont par exemple al-riba. Tu vas l'entendre dire le plus grave des péchés c'est al-riba. Ou alors le plus grave des péchés c'est le meurtre. ou alors le plus grave des péchés, c'est la fornication, etc. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont concentrer leur prêche et concentrer leurs avertissements et leur mise en garde contre ces péchés. Et il n'y a pas de doute que ces péchés entraînent la perversion des mœurs. Mais il y a une chose à laquelle on doit donner plus d'importance. On doit donner de l'importance à la mise en garde contre le polythéisme, à prévenir les gens contre le polythéisme. Car beaucoup de gens sont plongés dans cela. Beaucoup de gens tombent dans le polythéisme, parfois même sans le savoir. Et ceci est dû à l'ignorance profonde qui est propagée au sein des musulmans au sujet de leur religion, la religion de l'islam. Donc, la chose la plus grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite, qu'est-ce que c'est? C'est le shirk, le polythéisme. Le shirk, c'est plus grave qu'un riba, c'est plus grave que l'intérêt usuraire. Le shirk, c'est plus grave que le fait de boire de l'alcool. Le shirk, c'est plus grave que le vol, c'est plus grave que le meurtre, c'est plus grave que les jeux de hasard, et c'est plus grave que la fornication, et que tous les péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Le shirk est le plus grave des péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et pour preuve, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-An'am, « قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 151 de la sourate Al-An'am, selon la traduction des sens rapprochés, dit, c'est-à-dire ô Muhammad, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. Donc, tu vois que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit un certain nombre de choses qui sont parmi les grands péchés. Et il a commencé par quoi? Il a dit « Allah tushriku bihi shay'a » que vous ne lui associez rien. Ceci est donc une preuve que le shirk, le polythéisme, est la chose la plus grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et c'est le plus grave des péchés. Il est venu dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. Quel est le plus grave des péchés? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Il a dit, et ensuite, il a dit, le fait que tu tues ton enfant par crainte de devoir le nourrir. Il a dit, et quoi ensuite? Il a dit que tu commettes la fornication avec l'épouse de ton voisin. On voit donc que lorsqu'il a été interrogé sur le plus grave des péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé par le shirk. Il a commencé par mettre en garde contre le polythéisme. Et ceci est semblable à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Furqan, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Ceci est le verset 68 de la sourate Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction des sens rapprochés, ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée sauf à bon droit, et qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. On voit donc que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam par quoi? Par l'interdiction du shirk. Ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le shirk, c'est le plus grave des péchés. C'est pour cela qu'il a commencé par celui-ci. Et dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah Ta'ala, d'après Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Écartez-vous des sept destructrices », c'est-à-dire les sept grands péchés. « Écartez-vous des sept grands péchés, des sept destructrices ». Ils lui ont dit « Et quelles sont-elles, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ?» Il a commencé par dire quoi ?« Al-shirku billah », l'association à Allah. Il a donc commencé par le polythéisme. Ceci nous prouve donc que le shirk est le plus grave des péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et parmi les choses qui nous prouvent cela, il y a le fait que le mushrik, le polythéiste, il ne rentrera pas au paradis, en aucun cas. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 62 de Surat al-Ma'ida, « Innahu man yushrik billah faqad harram Allahu alayhi al-jannah » Quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Également, parmi les choses qui nous montrent que le shirk est le plus grave des péchés, il y a le fait que le mushrik, le polythéiste, qui meurt sur le polythéisme sans se repentir, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. En aucun cas. Il a dit dans le verset 48 de Surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit le paradis aux polythéistes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas celui qui meurt polythéiste. Ceci nous montre donc et nous prouve que le shirk est le plus grave des péchés. Et que tous les péchés en dehors de cela sont moindres que le polythéisme, même s'ils sont graves, même s'ils font partie des péchés destructeurs et des péchés qui anéantissent la personne et qui lui font encourir un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, celui qui commet un de ces péchés, comme le vol, la fornication ou la consommation d'alcool ou autre, alors il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonnera. Et si Allah veut, il le châtiera à hauteur de ses péchés, puis il le fera sortir du feu pour le faire entrer au paradis, car il était monothéiste et qu'il est mort sans avoir à donner d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au polythéiste, alors le paradis lui est interdit. Et il restera éternellement en enfer. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. Tout ceci nous prouve que le shirk est le plus grave des péchés. Et si le shirk, si le polythéisme est le plus grave des péchés, il est obligatoire alors pour les gens de science, pour les enseignants, de commencer par interdire et mettre en garde contre le shirk. Et il n'est pas permis de se taire à ce sujet, de voir les gens accomplir le polythéisme sous nos yeux et ne pas leur expliquer afin qu'ils s'en écartent. Tout ceci est interdit et cela fait partie de la négligence répandue à notre époque. Les gens voient des personnes affiliées à l'islam se diriger vers des tombeaux, invoquer les morts, se frotter à des tombes, recherchant la bénédiction auprès de ses habitants et ils les laissent faire, ils ne les mettront pas en garde contre le shirk. Ceci est une grave erreur. Ceci est une grave erreur. Il est obligatoire pour les prêcheurs de commencer tout d'abord à interdire le polythéisme, car c'est le plus grave et le plus dangereux des péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et le shirk, rahimahullah ta'ala, il a défini le shirk, le polythéisme, comme étant le fait d'invoquer avec Allah autre que lui. Le fait d'invoquer avec Allah autre que lui. Ceci est la définition du shirk. C'est le fait que tu voues une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un ange, un prophète, un homme pieux, un bâtiment, une pierre, un arbre ou toute autre chose parmi les créatures. Quiconque voue une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est alors tombé dans la chose la plus grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite à ses serviteurs, qui est le polythéisme. Il est donc important pour nous de connaître ce qu'est ce polythéisme, ce qu'est le tawhid, qu'est-ce que le tawhid, qu'est-ce que le shirk, car il y a des gens qui expliquent que le tawhid, d'une façon erronée. Il y a des gens qui expliquent le shirk d'une façon erronée. Parmi les gens, il y en a qui disent que le shirk est seulement le shirk dans Al-Hakimiyya. Et ceci est apparu de nos jours, malheureusement. Le fait de juger par autre que ce qu'Allah a révélé, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que ceci est une forme de shirk. Une forme de shirk liée à l'obéissance. Car le fait d'obéir à une créature, en rendant licite ce qu'Allah a interdit, ou illicite ce qu'Allah a autorisé, il n'y a pas de doute que ceci est une forme de polythéisme. Mais il y a des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus répandues, comme le fait d'adorer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, en sacrifiant pour les morts, en sacrifiant pour les djinns, en faisant le tawaf autour des tombes, en implorant le secours des morts. Il est donc obligatoire de mettre en garde contre toute forme de shirk et ne pas se contenter de mettre en garde contre une seule forme de shirk ou de mécréance. Également, il y a des gens qui expliquent le shirk en disant que le polythéisme, c'est le fait d'aimer ce bas monde. Ils disent, le polythéisme, c'est le fait d'aimer les biens de ce bas monde. Il n'y a pas de doute que ceci est également une interprétation erronée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, dans le verset 20 de la sourate Al-Fajr, il dit subhanahu wa ta'ala, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Et vous aimez les richesses, c'est-à-dire de ce bas monde, d'un amour sans borne. Et il dit dans le verset 8 de sourate Al-Adiyat, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ. Et pour l'amour des richesses, il a, c'est-à-dire l'homme, un amour ardent. Ceci nous prouve que le fait d'aimer les biens de ce bas monde, d'aimer les richesses, ceci n'est pas du polythéisme, mais c'est un amour naturel. Car l'homme, de par sa nature, il aime les choses dont il profite. Mais ceux-là, ils sont venus avec ces paroles, car ils sont ignorants de la science du tawhid et du shirk. Ils ne savent pas ce qu'est le tawhid, ils ne savent pas ce qu'est le shirk. Et de ce fait, ils détournent les gens de la réalité de ces choses. Et c'est peut-être ce qu'ils recherchent à travers cela. Éloigner les gens du message réel de l'islam, qui est le fait de vouer un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala, et de t'écarter de toute forme de polythéisme. Ce qui nous importe, c'est que cela n'est pas du polythéisme. Mais le polythéisme, c'est le fait d'invoquer avec Allah autre qu'Allah. Et médite sur la parole de l'auteur, rahimahullah. Il dit invoquer avec Allah autre qu'Allah. Ce n'est pas d'une condition que le polythéiste n'adore qu'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il se peut qu'il adore Allah matin et soir, qu'il accomplisse ses 5 prières pour Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il jeûne le mois de Ramadan pour Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse le pèlerinage à la Mecque pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'il lui arrive une difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Il lève ses mains, il dit « Oh Al-Hussein, oh messager d'Allah, oh Abdel Qadir al-Jailani », il invoque autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de par cela, il sort de l'islam et rend vaine l'ensemble de ses œuvres. On demande donc à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver. Enfin, le shirk, il dit, rahimahullah, wa dalil, et la preuve. Comme on l'a dit, le shirk, rahimahullah, il n'évoque pas une question, il n'aborde pas un sujet sans en mentionner sa preuve. Soit du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc dit ici, wa dalil, qawluhu ta'ala, wa'budu allaha, wa la tushriku bihi shay'a. Et la preuve, c'est-à-dire la preuve que le tawhid est la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée et que le shirk est la chose la plus grave qu'il a interdite. C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wa'budu allaha, wa la tushriku bihi shay'a. Et adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Le verset 36 de sourate An-Nisa. Mais la chose que l'on se demande ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer. Et il nous interdit de lui donner des associés. Mais en quoi ce verset est une preuve pour dire que ceci est la chose la plus importante, l'ordre du tawhid, et que le shirk est la chose la plus grave qu'il a interdite? La réponse se trouve dans la suite du verset. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné 10 droits. C'est pour cela d'ailleurs que ce verset s'appelle le verset des 10 droits. Et le premier des droits qu'il a mentionné, c'est son droit, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit « Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ». Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. « Wabilwalidayni ihsana ». Et soyez bons envers vos pères et mères. Et ceci est le deuxième droit. « Wabidil qurba ». Et ainsi qu'envers les proches. Et ceci est le troisième droit. Et les proches, ce sont tous ceux avec qui tu as un lien de parenté. Que ce soit via ton père ou via ta mère. Comme les grands-pères et les grands-mères, les oncles et les tantes, paternelles et maternelles, les frères et les sœurs, ainsi que les neveux, les cousins, etc. Tous ceux-ci ont un droit de parenté sur toi. Ceci est donc le troisième droit mentionné dans ce verset. Ensuite, il a dit « wal yatam », et c'est-à-dire « soyez bons envers les orphelins ». Et les orphelins parmi les musulmans, ce sont tous ceux dont le père est mort avant qu'ils soient pubères. Avant qu'ils soient pubères. Ils ont donc besoin que les gens soient bons envers eux et comblent le manque dû à l'absence de leur père en termes d'éducation et de dépenses également. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné d'autres droits, comme vous pouvez le voir en revenant au verset. Mais ce qui nous importe ici à nous, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par quoi? Il a commencé par son droit. وَعْبُدُ اللَّهَ Adorez Allah, وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Et ne lui donnez aucun associé. Ceci est donc la chose la plus importante. Il a dit adorer Allah, mais il ne s'est pas contenté de cela. Car l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne peut être valide si elle est mélangée au shirk. Elle n'est pas profitable. C'est pour cela qu'il a dit après, et ne lui donnez aucun associé. Ainsi l'adoration, elle ne peut être nommée adoration que si elle est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si elle est mélangée au shirk, si elle est mélangée au polythéisme, alors ce n'est pas une adoration. Et elle n'est que source de fatigue et de peine pour son auteur. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a joint l'ordre de l'adoration à quoi? À l'interdiction du polythéisme. Car l'adoration, elle ne peut être valide en présence du polythéisme, et ce, en aucun cas. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait commencé par l'ordre du tawhid et l'interdiction du shirk, ceci nous prouve que le tawhid est la chose la plus importante qu'il a ordonnée et que le shirk est la chose la plus grave qu'il a interdite, subhanahu wa ta'ala, car il a commencé par cela dans ce verset, et Allah subhanahu wa ta'ala commence par ce qui est le plus important. Ceci est donc la preuve de ce que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a mentionné. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا sallallahu alayhi wa sallam. Puis, si on te demande quels sont les trois fondements qu'il est obligatoire pour l'homme de connaître, alors dis, c'est la connaissance du serviteur, de son seigneur, de sa religion et de son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est donc une phrase de transition entre l'introduction de ce livre et le vif du sujet qui sont les trois fondements qu'il nous incombe à tous de connaître. Et on commencera donc, inshallah ta'ala, dimanche prochain avec le premier fondement qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas une preuve contre nous. Wa sallallahumma wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين